Radio Kapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Nouvelle incursion de la milice Mobondo ce week-end à Kinsele, territoire de Kwamout dans le Maïndombe. Bilan, plus de 50 morts, dont au moins 40 miliciens neutralisés, rapporte l'élu de Kwamout, David Bisaka. La Belgique s'est plainte de l'augmentation des demandes d'asile des Congolais qui cherchent des protections juridiques. Tenez, rien qu'au premier semestre 2024, l'Office des étrangers belges dit avoir reçu 650 demandes d'asile venant de la RDC. Cette institution l'a révélé ce week-end à Kinshasa. Et puis, la Cour constitutionnelle est en train d'enregistrer les déclarations écrites des biens des membres du gouvernement congolais. Mais en quoi cette démarche est-elle susceptible d'améliorer la gouvernance publique de la RDC? Pour en parler, nous recevons le professeur Ngoma Binda, auteur de plusieurs ouvrages en philosophie politique. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Maïndombe. Plus de 50 morts signalés après une nouvelle incursion de la milice Mobondo samedi soir au village Kinsele dans le territoire de Kwamout. D'après le député provincial élu de Kwamout, David Bisaka, et le chef du village voisin de Kimomo qui livre l'information, plus de 40 miliciens ont été neutralisés et certains hommes en uniforme, y compris une femme, sont tombés sur le champ de bataille. Ces corps sans vie ont été ramassés par les services de sécurité sur place après que l'armée a réussi à mettre en déroute la milice pour une nouvelle fois en moins d'une semaine. Le récit de Irène Boma.
Après avoir été mis en déroute vendredi dernier par l'armée à Kinsele, les miliciens Mobondo ont encore attaqué samedi la position militaire dans les mêmes villages situés sur la RN17 à la limite entre Kinshasa et la province du Maïndombe. Les chefs du village voisin de Kimomo parlent des 41 miliciens tués et déplorent le non-respect de l'axe d'engagement signé pour mettre fin aux hostilités à Kwamout. Stani Libi.
Le bilan est de 41 miliciens qui sont maîtrisés et 9 militaires tombés, une dame d'un militaire qui est tombée aussi. L'arche de la guerre était enterrée. Qu'est-ce qui s'est fait que maintenant les miliciens s'élèvent pour prendre les armes, attaquer les FARDC qui est une force gouvernementale? C'est quelque part aberrant.
Le député provincial David Bisaka, élu de Kwamout, qui livre presque les mêmes bilans, indique ce qui suit.
Les services ramassent les corps sans vie. On atteint déjà 42 Mobondo, 9 militaires et une femme de militaire. Les corps des militaires sont déjà acheminés aux morgues de Kinshasa. Le corps des Mobondo traîne encore au sol à Kinsele.
Rappelons que c'est depuis jeudi dernier que ces nouvelles incursions ont repris à Kinsele à Kwamout. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Par ailleurs, au Nord Kivu, le gouverneur militaire déplore la recrudescence de l'insécurité à Goma malgré une opération d'envergure lancée au mois d'avril pour sécuriser la ville. En effet, depuis le début de la semaine dernière, les nuits à Goma ne sont pas du tout calmes. Des tirs nourris sont enregistrés dans plusieurs quartiers et cela pendant des heures. Plusieurs cas de tuerie par des hommes armés non seulement la nuit mais aussi pendant la journée, sans compter les innombrables cas de cambriolage et de braquage, tout en promettant de redynamiser les actions de sécurisation de la ville. Le général-major Peter Chirimwami demande à la population de s'impliquer aussi pour plus de sécurité à Goma. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Depuis le mois d'avril, nous avions mis en place une opération qu'on appelle Safishamuji, donc nettoyons la ville. Nous étions en train de faire une évaluation mensuelle et cela a donné un bon résultat. Nous avions pu arrêter environ 200 criminels et nous avions récupéré environ 100 armes dans la ville. Et donc, la recrudescence qu'on a vue dans cette semaine ici, ça nous a amené à faire une évaluation le vendredi. On a essayé de voir les failles et les efforts et on a mis en place un mécanisme de redynamiser ces opérations en essayant de renforcer la police. Nous avions aussi mis en place ce que nous appelons la task force participative où nous allons impliquer tout le monde parce que la sécurité n'est pas seulement le rôle de l'armée ou de la police, mais c'est toute la population qui doit s'impliquer.
Entre-temps, des combats ont été signalés hier à Kirumba, dans le territoire de Lubero. Nous sommes toujours au Nord Kivu. Des sources locales rapportent que des combattants Wazalendo auraient lancé une attaque contre les rebelles du M23 qui occupent cette agglomération depuis plus d'un mois. Des tirs à l'arme lourdes et légères ont été entendus depuis 5 heures locales. Selon un membre de la jeunesse locale contacté par Radio Kapi, ces tirs étaient localisés vers le centre commercial de Kirumba, mais aussi le marché central et le quartier Biréré. C'est vers 9 heures hier que la population qui s'était terrée chez elle a commencé à sortir lorsque ces combats ont cessé. Aucun bilan de ces affrontements n'est connu jusque-là. Sans trop de précision, l'administrateur de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, dit être au courant de ces accrochages. Et puis, tous les groupes armés signataires d'actes d'engagement doivent cesser immédiatement les exactions contre la population, des peurs d'être considérés comme des ennemis de la paix. Déclaration de l'armée devant la presse hier à Bunia, au lendemain de la mort de 26 personnes, dont 6 militaires des FARDC à Pluto, au nord-ouest de Bunia, dans le territoire de Djougou. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, les forces loyalistes sont déterminées à imposer la paix partout où l'ordre public sera perturbé. Le lieutenant Jules Ngongo le dit au micro de Martial Kizabiamungu.
Tous les groupes armés qui essayeront de s'attaquer à nos populations ou à l'une de nos positions, la riposte de forces armées sera impitoyable. Et ceux-là qui continueront à troubler l'ordre public, la quiétude de nos populations, dans les coins et recoins des territoires de Djougou, la réaction sera tout de suite et maintenant. Les forces armées sont résolument décidées de mettre fin à toute tentative de déstabiliser la province. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant général Luboyan Kanchamadjoni, nous encourageons les forces armées de poursuivre l'ennemi et le mettre hors d'état de nuire. Nous appelons la population à faire confiance aux forces armées et à soutenir son armée afin de mettre fin aux aventures de tout le groupe armés qui continuent à s'attaquer à la paisible population s'ils ne voudront pas respecter leur acte d'engagement.
Rappelons que samedi, des violents combats ont opposé les groupes armés Codeco et Zaïre dans la localité de Pluto en Ituri. 13 miliciens de Zaïre et 7 de la Codeco ont été tués, ainsi que 6 militaires des FARDC, ce alors que l'armée tentait de rétablir l'ordre dans cette localité. Ici à Kinshasa, la sécurité des chauffeurs des transports en commun était le point principal de la réunion que le commissaire provincial de la police a organisée samedi avec l'association des chauffeurs du Congo ASECO et d'autres associations du domaine. Cette rencontre intervient après le meurtre des 6 chauffeurs dont les corps ont été ramassés au centre-ville. Les deux parties ont pris une série de mesures pour sécuriser les chauffeurs. Étienne Lissoumbou nous en parle.
Le président de l'association des chauffeurs du Congo dit se réjouir de ce que la police se dit prête à les aider à remédier à cette situation d'insécurité, notamment par la création d'une commission à laquelle la SECO sera associée. Jean Mutombo.
La sécurité par le fait qu'elle est générale et donc nous dans notre domaine nous devons commencer par nous sécuriser nous-mêmes. Je pense que dans les jours à venir, le général va nous appeler encore parce qu'il y a une commission qui sera composée et nous demandons à ce que nous soyons dans cette commission-là pour que nous puissions travailler ensemble.
Pour sa part, le patron de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a expliqué aux chauffeurs que la police ne pourra pas sécuriser tous les chauffeurs individuellement. Du moins, ils doivent eux-mêmes savoir quand commencer le travail et le terminer. Mais éviter de prendre de boissons avec les clients qu'ils ne connaissent pas, car ils s'exposent.
Ensemble, on a passé en revue les modes opératoires des criminels. Et nous nous sommes aperçus qu'il y a quelque part de la turpitude du côté de nos chauffeurs. Nous nous sommes aperçus également qu'il est difficile de placer un policier pour chaque chauffeur. C'est ainsi que nous avons arrêté des mesures pour la sécurité de ces chauffeurs.
La SECO dit espérer vivement que cette réunion avec la police va mettre fin au cycle de meurtres des chauffeurs à Kinshasa.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, la Belgique s'est plainte de l'augmentation des demandes d'asile des Congolais qui cherchent des protections juridiques. Le directeur de l'Office des étrangers belges en séjour à Kinshasa l'a fait savoir samedi au cours d'un point de presse. Pour l'Office des étrangers belges, les Congolais doivent éviter de se donner aux trafiquants des demandes d'asile qui ne rassurent pas. Des détails dans ce reportage de Askin Zibiataoro.
Les efforts déployés entre l'Office des étrangers belges et les services de migration de la RDC ne viennent pas à bout de l'afflux de demandes d'asile des Congolais de Kinshasa cherchant protection juridique en Belgique. D'après Freddy Rosmont, directeur de l'Office des étrangers belges, son service a reçu en 2023 1220 demandes d'asile venant de la RDC. Au semestre de cette année 2024, 650 Congolais ont demandé l'asile en Belgique. En moyenne, 100 demandes d'asile par mois. La Belgique ne s'en réjouit pas, même si elle en reste ouverte. Freddy Rosmont.
Tout le monde qui a besoin de protection va le recevoir. Seulement le problème ici, avec beaucoup de ressortissants congolais, est qu'ils n'ont pas besoin de protection dans le cadre du Convention de Genève. Ils ont peut-être des difficultés socio-économiques, ils veulent avoir une meilleure vie. Mais ça, ça ne tombe pas dans le cadre de l'asile. Donc, il faut informer le public correctement que quelqu'un qui leur dit « utilise les procédures d'asile », c'est un mauvais conseil. Parce que c'est le temps perdu, c'est l'argent perdu.
Il faut noter qu'en termes de demandes d'asile en Belgique, la RDC est le sixième pays au monde sur la liste, après la Palestine, la Syrie, Afghanistan, Érythrée et la Turquie.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'artiste musicien Koffi Olomide est attendu ce lundi 15 juillet au parquet général près la cour de cassation pour des faits qui lui seront communiqués sur place. C'est ce qu'indique l'invitation lui adressée vendredi. Cette convocation intervient à la suite de son passage à l'émission Le Panier sur la RTNC le 6 juillet dernier, où il a tenu des propos controversés selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ces déclarations jugées dénigrante et démobilisatrice pour les FARDC lui ont valu une première convocation par le CESAC le 12 juillet, au cours de laquelle il a dû présenter ses moyens de défense. Lors de l'émission, Koffi Olomide avait notamment déclaré, je le cite, « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut », fin de citation. Santé. La province du Haut-Katanga a notifié 172 cas de paralysie flasque aiguë depuis le début de cette année. Les échantillons envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB sont tous négatifs. Le responsable du programme élargi de vaccination PEV dans le Haut-Katanga demande aux parents d'amener dans les structures médicales les enfants qui présenteraient le signe des paralysies des membres supérieurs ou inférieurs. Jean Gando.
À l'heure actuelle, ce sont toutes les 27 zones de santé qui ont notifié au moins un cas de paralysie flasque aiguë. Le premier a été enregistré au mois de janvier 2024 dans la zone de santé de Ruachi à Lubumbashi, qui compte à ce jour 46 cas. Les autres zones de santé qui ont aussi beaucoup de cas sont notamment Mufunga et Kenya avec chacune 11. L'âge de la plupart des victimes varie de 0 à 5 ans. Il y a aussi celles qui ont plus de 10 ans. Jusqu'à présent, aucun cas de décès n'a été signalé, rapporte le médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination dans le Haut-Katanga. Dr Blaise Kalenga précise aussi que tous les échantillons prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa sont négatifs. Ainsi, il demande aux parents qui constateraient que leurs enfants qui marchaient ou qui rampaient ne les font plus, de vite les amener directement dans les structures médicales pour une bonne prise en charge. En outre, ils doivent respecter le cycle complet de vaccination. Pour sa part, le médecin chef des zones de santé de Ruachi se félicite du travail abattu par les cellules d'animation communautaire ainsi que les relais communautaires pour retrouver tous les cas notifiés. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Direction le Congo central. Le comité provincial du syndicat des enseignants du Congo SIECO menace de boycotter la reprise des cours pour l'année scolaire 2024-2025 si le gouvernement ne respecte pas leurs revendications restées sans solution durant plus d'une décennie. Le SIECO Congo central l'a fait savoir dans une déclaration samedi à la presse locale à Matadi à l'issue d'un échange avec les enseignants. Le secrétaire provincial du SIECO, Georges Doumbi, a lu cette déclaration, propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Pour une rentrée scolaire apaisée 2024-2025, le SIECO Congo Central fait appel au gouvernement à la concrétisation des revendications du personnel enseignant. Exigeons le respect des barèmes salariales à tout le niveau du territoire national sans condition. Le paiement honorable des indemnités de sortie des enseignants retraités pour le mois de juin et sa continuité afin de le remplacer par le jeune pédagogue chômeur. Le paiement de tous les enseignants NI et NP, de toutes les écoles publiques de la province du Congo central. Exigeons la suppression de la prise en charge des enseignants par le parent au niveau secondaire. Les maintiens au poste de l'enseignant tombé malade en plein service jusqu'à la retraite. Nous exigeons un salaire décent équivalent à $500 par enseignant ce mois de juillet. Sinon, les gouvernements et les administratifs qui cherchent à s'enrichir au dos des enseignants créés à la main s'en prendront à eux-mêmes.
Actualité internationale.
Nous sommes en Somalie. 5 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée devant un café à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, qui était bondée en raison de la retransmission de la finale de l'Euro 2024 hier dimanche au soir. Information livrée par les médias locaux citant la police. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.
L'invité.
La Cour constitutionnelle est en train d'enregistrer depuis mardi 9 juillet les déclarations écrites des biens des membres du gouvernement congolais. Après le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé, c'était le tour de la Première ministre entrante, Judith Suminwa, de déposer la liste de son patrimoine au greffe de la Cour. Il s'agit d'une obligation constitutionnelle à laquelle se conforment tous les membres du gouvernement à chaque nomination et sortie. Mais en quoi cette démarche est susceptible d'améliorer la gouvernance publique de la RDC? Nous en parlons avec le professeur Ngoma Binda, auteur de plusieurs ouvrages en philosophie politique. Il est avec Michel Kifindangoy.
Professeur Ngoma Binda, bonjour.
Bonjour mon cher Kifinda.
La première ministre a procédé à la déclaration de son patrimoine. Qu'est-ce que cette démarche constitutionnelle vise concrètement?
C'est une disposition constitutionnelle qui visait à moraliser la vie publique, notamment à partir des dirigeants principaux du pays. Cette préoccupation morale, éthique, est très très importante dans un contexte où on a énormément de problèmes de corruption, énormément de problèmes de détournement, d'enrichissement illicite. Et donc, la préoccupation est totalement fondamentale et tout à fait fondée. C'est pour dissuader, tant soit peu, les détournements des biens publics.
Au regard de la manière dont la déclaration des patrimoines se déroule en République démocratique du Congo, pensez-vous que cela est susceptible à améliorer la gouvernance publique et surtout la transparence dans la gestion des affaires publiques?
La Constitution dispose que quand on a déclaré les biens, la Cour constitutionnelle doit pouvoir suivre. Par exemple, notre gouvernement est sur place depuis, je crois, 30 jours déjà. Ceux qui n'auront pas déclaré les biens sont réputés démissionnaires. Mais est-ce tout le monde a déclaré les avoirs familiaux? Là, c'est un problème. La Constitution doit normalement déposer devant l'administration fiscale, d'après la disposition de l'article 99, doit déposer devant l'administration fiscale toutes ces déclarations qui auront été faites. Et donc, c'est l'administration fiscale. J'imagine que c'est non seulement l'inspection générale des finances, mais peut-être aussi la direction générale des impôts, etc.
Sous d'autres cieux, la déclaration des patrimoines favorise à prévenir les enrichissements illicites par les gestionnaires des affaires publiques. Est-ce que ici chez nous au Congo, vous pensez que cette déclaration des patrimoines depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2006 a aussi encouragé à prévenir les enrichissements illicites?
Oui, ben c'est dommage, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Malgré cette disposition qui existe depuis 2006, nous n'avons jamais entendu quelque part quelqu'un qui a été attiré en justice, quelqu'un qui a été appelé pour vérifier la sincérité de ses biens ou qui a été appelé à pouvoir démissionner, parce que la déclaration à l'entrée doit pouvoir être faite en ayant les 30 jours.
Dans votre ouvrage « Pouvoir et moralité dans les affaires publiques », vous dénoncez l'enrichissement illicite des dirigeants africains qui paupérisent leur population. Que préconisez-vous pour que cette disposition de la Constitution qui exige aux dirigeants de déclarer leur patrimoine à l'entrée et à la sortie des fonctions publiques puisse réellement prévenir les enrichissements illicites?
Bien, effectivement, dans mon ouvrage « Pouvoir et moralité dans les affaires publiques », j'ai argumenté en faveur de la moralisation de notre pouvoir public, de nos dirigeants. Malheureusement, cela tarde à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je pense que les responsables premiers de l'administration publique, du gouvernement, doivent pouvoir agir. Pour le gouvernement, c'est la première ministre qui doit pouvoir demander à tous ses membres du gouvernement de déclarer les biens et de les déclarer de façon sincère. Deuxièmement, le président de la République, garant de la nation, doit absolument pouvoir interpeller quiconque ne l'aura pas fait et lui dire qu'il n'aura pas déclaré ses biens et donc il est réputé démissionnaire. Pour ceux qui terminent le mandat, qui sortent, eh bien, l'administration fiscale doit pouvoir suivre. C'est la Cour constitutionnelle qui doit pouvoir rappeler à l'administration fiscale de pouvoir vérifier la conformité à la loi, à l'article 99 de la Constitution. Pour savoir s'ils les ont réellement déclarés, effectivement, en quittant, et s'ils ont déclaré correctement leurs biens.
Professeur Ngoma Binda, je vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Irung Mouchinj, Debs Vita à la mise en onde. Merci de rester les nôtres.